Les colloques du Collège de France.
Donc on finit cette matinée avec Jacques Percebois, donc qui est professeur émérite à l'Université de Montpellier, où il a fait, je crois, une grande partie de sa carrière. Il dirige le Centre de recherche en économie et droit de l'énergie. C'est un très grand spécialiste, on l'a cité d'ailleurs tout à l'heure. Des ouvrages majeurs, grand spécialiste des questions économiques de l'énergie, et là on a une question qui est très très importante, qui est d'actualité, c'est la question du marché de l'électricité. Jacques, à toi de jouer.
Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Merci à Marc pour son invitation à présenter une intervention sur la réforme du marché européen de l'électricité. Alors, si on parle de réforme, c'est qu'il y a un problème. Donc, il faut expliquer pourquoi on est arrivé à cette situation. Tout le monde a compris que l'année 2022 y est pour beaucoup, mais c'est peut-être pas la seule raison d'ailleurs. Et puis, marché européen. Alors, marché européen, c'est peut-être excessif parce qu'en fait, il y a des marchés nationaux de l'électricité, et il y a des interconnexions en Europe qui font qu'à certains moments, les prix de l'électricité convergent sur les marchés de gros, à d'autres moments, ils divergent. De toute façon, les prix payés par chaque consommateur européen, les prix sont différents, puisque interviennent à la fois le coût des taxes et, évidemment, le coût des réseaux. Donc, tout ça fait que tout le monde ne paye pas le même prix, on le verra. Alors, quand on parle d'électricité, on parle de à peu près un quart de la consommation finale d'énergie. Ça reste un quart, c'était un peu plus en 2023, on est monté à 27%, parce que la consommation d'énergie finale a un peu baissé, on a fait davantage appel à l'électricité. Donc c'est un gros quart de la consommation finale, ce qui veut dire que la première proportion d'énergie consommée, ce sont les produits pétroliers. Pour du pétrolier, c'est plus de 40%, le gaz, c'est 20%, l'électricité, c'est 25%. Donc, on va parler de 25%. Alors, cette électricité, comment est-elle produite? Eh bien, on le voit ici sur le graphique. En France, le nucléaire représente 65%, les renouvelables, y compris l'hydraulique, qui est important, c'est 12%, 29%, et puis le gaz, c'est 6%. Il reste un tout petit peu de charbon. Alors, on est à 65% de nucléaire, on est monté à 75%, même au-delà, dans le passé, ça a été rappelé tout à l'heure par Jean-Paul Bout. Donc, on a une proportion beaucoup plus faible. En 2022, on était tombé à 63%, donc on augmente un peu la proportion de nucléaire. Donc, la France a choisi l'option nucléaire. Alors, quand on parle d'électricité, en Europe, on parle d'une industrie de réseau qui est soumise aujourd'hui au principe de la concurrence. Alors, Cécile a insisté sur le fait qu'il y avait un côté un peu dogmatique de la concurrence. La politique énergétique n'est pas de la compétence de l'Union européenne, de la Commission. La politique énergétique, elle est nationale. Chacun fait le choix qu'il veut. On ne peut pas obliger un pays à faire du nucléaire ou à ne pas en faire. Simplement, on se met d'accord sur quelques grandes idées, quelques grands principes, quelques orientations. Par contre, en revanche, le levier sur lequel la Commission peut insister, c'est la concurrence. Et donc, elle va jouer, en quelque sorte, cette carte de la concurrence pour imposer un certain nombre de contraintes aux États membres. Il faut savoir que le principe de la concurrence, il est inscrit dans les traités, y compris dans le traité de Rome, dans son article 90, qui dit que les services, article 90, version initiale, c'est la version originelle, qui dit en substance que les services publics sont ouverts au principe de la concurrence dans la mesure où l'application de ce principe ne fait pas obstacle en droit ou en fait à l'accomplissement de missions particulières qui sont imparties aux industries de réseau. Entendez, il y a des contraintes pour le service public, mais d'une certaine façon, il faut quand même faire fonctionner la concurrence. Pendant longtemps, ça n'avait pas été le cas. On avait très largement en Europe des monopoles publics intégrés. Et ce sont les directives de 96, essentiellement, et suivantes, qui ont imposé en quelque sorte l'ouverture. Alors cette ouverture, elle s'est faite là où on pouvait la faire techniquement, c'est-à-dire dans la production et dans la fourniture. Parce que les réseaux, ce sont des monopoles naturels. On ne va pas dupliquer des réseaux, ce serait absurde. Donc, les réseaux de transport ou les réseaux de distribution restent des monopoles naturels, mais comme ce sont des monopoles, ils doivent être régulés. Les tarifs d'accès aux réseaux sont fixés par des commissions de régulation nationales. En revanche, on va ouvrir la production, et on va ouvrir la fourniture. La France, au départ, d'ailleurs, était plutôt favorable à l'ouverture à la production, en considérant que ce n'était pas nécessaire d'ouvrir la fourniture. Et puis finalement, eh bien, la France a cédé un peu aux demandes de tous les autres pays. C'est-à-dire on a ouvert aussi la fourniture. Alors on peut être fournisseur sans être producteur. En général, les producteurs sont fournisseurs, mais encore une fois, la réciproque n'est pas vraie. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de fournisseurs qui ne produisent pas d'électricité. Alors, cette ouverture, elle s'explique, je ne veux pas faire un historique trop long, mais elle s'explique par le fait que les monopoles publics ont parfois été critiqués parce que c'était juridiquement prévu dans les textes, et aussi parce qu'il y a eu du lobbying de la part d'un certain nombre de gros consommateurs qui souhaitaient pouvoir choisir leurs fournisseurs. Et par conséquent, il y a tout un historique qui explique cette ouverture. Alors, ce qui est ouvert, bien sûr, c'est la production. On va ouvrir cette production à travers un marché de gros. Un marché de gros sur lequel une partie de l'électricité est vendue. Toute l'électricité n'est pas vendue sur le marché de gros. Mais ce marché de gros, c'est un marché horaire. C'est-à-dire qu'il y a un prix toutes les heures. Donc, il y a 8760 prix dans l'année. Ce prix, il est très volatile. Pourquoi ? Parce que l'électricité ne se stocke pas. Et par conséquent, en temps réel, le prix va varier en fonction de la loi de l'offre et de la demande. À certains moments, on aura même des prix négatifs. Il y a trop d'électricité injectée et pas assez de demande. Donc certains sont prêts à payer pour continuer à injecter. À d'autres moments, les prix vont s'envoler. En 2022, les prix vont s'envoler, ils vont dépasser parfois 1000 euros le mégawattheure, ce qui était évidemment énorme. Donc c'est un marché de gros horaires qui a un inconvénient majeur. Il envoie des signaux de court terme, mais pas de signaux de long terme. C'est-à-dire qu'il ne permet pas aux investisseurs de savoir dans quel domaine ils doivent investir. Le marché, comme on dit souvent, le marché est myope. Et donc, toute l'électricité ne passe pas par le marché de gros, mais le prix de gros, c'est un prix qui sert de référence pour beaucoup de contrats. Donc tout le monde s'appuie sur quel est le prix du marché de gros. Aujourd'hui, en Europe, alors en France par exemple, le prix est entre 50 et 100 euros le mégawattheure, suivant l'heure. Bon, ces dernières semaines, il a été beaucoup plus bas. Évidemment, en 2022, il s'est envolé. Alors, pour comprendre cette logique du fonctionnement du marché de gros, il faut distinguer deux notions importantes, le coût moyen et le coût marginal. C'est relativement simple. Le coût moyen, c'est le coût total, c'est-à-dire tous les coûts fixes des centrales, plus tous les coûts variables, essentiellement pour certaines centrales, le coût en combustible, divisé, donc ce coût total, coût fixe et coût variable, divisé par la quantité produite. Donc vous avez un coût moyen de l'électricité. Alors ce coût, il a une structure très différente selon le type de centrale. Pour faire simple, vous avez des centrales à forte proportion de coûts fixes, c'est-à-dire les centrales nucléaires, bien sûr, ce qui compte dans les centrales nucléaires, ce qui coûte, ce sont les coûts fixes. Et puis les centrales renouvelables. Dans le renouvelable, ce qui coûte cher, c'est l'installation. Donc en pourcentage, vous avez une proportion élevée de coûts fixes. Et puis vous avez des centrales pour lesquelles c'est l'inverse, ce sont les coûts variables qui constituent l'essentiel du coût. C'est le cas des centrales fossiles, des centrales qui utilisent du charbon, qui utilisent du fioul, il n'y en a plus beaucoup, ou qui utilisent du gaz. Là, il y en a beaucoup. Et donc, ce qui coûte cher, c'est le combustible, c'est le gaz. Pour fabriquer un mégawattheure d'électricité avec une centrale à gaz, grosso modo, il faut 2 mégawattheures de gaz. Donc, le prix du gaz va être déterminant. Donc, à gauche, vous avez la structure qui montre bien que les centrales à forte proportion de coûts variables, c'est-à-dire les centrales fossiles, se caractérisent par, en effet, ce poids élevé du coût du combustible. Et par conséquent, à droite, le schéma vous donne le coût marginal. Le coût marginal, c'est l'accroissement du coût total quand vous produisez un mégawattheure supplémentaire. C'est le coût de fonctionnement, au fond, lorsque vous voulez produire un peu plus. Et on appelle les centrales sur le réseau, non pas en fonction des coûts moyens, mais en fonction des coûts variables, c'est-à-dire en fonction du coût marginal. Ce qui explique que les centrales appelées en premier, ce sont les centrales renouvelables, d'autant que les dispositions législatives leur donnent la priorité. Ensuite, vous avez le nucléaire, et puis ensuite, vous avez les centrales fossiles, et la dernière centrale appelée est souvent une centrale à gaz. Alors, il faut y ajouter d'ailleurs le coût du combustible plus le coût du CO2, parce que ces centrales émettent également du CO2, donc il y a un prix du CO2. Et donc le prix de l'électricité sur le marché de gros va être fonction du prix du gaz. Alors beaucoup de gens disent, pourquoi on a indexé le prix de l'électricité sur le prix du gaz ? On n'a pas indexé le prix de l'électricité sur le prix du gaz. Le prix de l'électricité est corrélé au prix du gaz, parce qu'on a besoin des centrales à gaz pour l'équilibre du réseau. En 2022, les prix du gaz se sont envolés, et par ricochet, les prix de l'électricité se sont envolés. Au fond, pour faire marcher les centrales à gaz, il fallait accepter de payer très cher l'électricité. Donc, quand le prix du gaz, en août 2022, a atteint 345 euros le mégawattheure, le prix de l'électricité a atteint 750 euros le mégawattheure. Pourquoi ? Parce qu'il faut 2 mégawattheures de gaz pour produire 1 mégawattheure d'électricité. Vous êtes à 2 fois 345, ça fait 690. Il faut y ajouter une demi-tonne de CO2. À l'époque, la tonne était aux alentours de 100 euros. Et par conséquent, vous êtes à 750 euros le mégawattheure d'électricité. Si vous êtes propriétaire d'une centrale à gaz, vous n'accepterez de mettre votre centrale à disposition du marché que si vous couvrez au minimum le coût variable, le coût de fonctionnement. Si vous ne couvrez pas le coût de fonctionnement, votre centrale fonctionne à perte et donc personne n'acceptera de faire marcher une centrale à perte. C'est l'inconvénient de cette logique du marché. Alors, pendant longtemps, on voit que la situation était différente, c'est-à-dire qu'on avait un coût marginal qui était sous le coût moyen. Entre 2000, pour faire simple, 2010 et 2020, eh bien, ou même avant 2010, de 2000 à 2020, on voit que le coût marginal était inférieur au coût moyen. C'est-à-dire que le prix de gros sur le marché ne permettait pas de couvrir les coûts fixes des centrales. Et donc, on a fermé beaucoup de centrales thermiques dans ces années-là. On a fermé beaucoup de centrales à gaz en particulier. Ce qui s'est passé en 2022, c'est qu'on a eu l'inverse. C'est-à-dire que le coût marginal est passé au-dessus du coût moyen. Alors, il y a eu évidemment des rentes importantes. C'est-à-dire que, évidemment, les propriétaires de centrales dites inframarginales, c'est-à-dire qui ne sont pas des centrales à gaz, pouvaient bénéficier de prix relativement élevés. Ces rentes ne sont pas nécessairement indues parce qu'elles permettent de financer les coûts fixes. Mais il y a eu évidemment des surprofits pour certains dans ce domaine, du moins dans les pays où les prix n'étaient pas réglementés. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va avoir dans le futur des prix de l'électricité qui vont continuer à augmenter ou pas ? Il faut bien voir que ça va dépendre aussi d'autres éléments qui ne sont pas les éléments du prix de gros, mais le coût des réseaux et bien sûr les taxes. D'ailleurs, je fais observer qu'entre 2010 et 2020, le prix de l'électricité pour le consommateur final, je ne parle pas du prix de gros cette fois, je parle du prix payé par le consommateur final, c'est-à-dire du prix toutes taxes comprises. Les prix, dans un contexte où les prix de gros étaient plutôt bas, les prix payés par le consommateur final en France ont monté de 85% à peu près. Quelle est la principale cause de la hausse des prix à l'époque ? Ce sont les taxes. Pourquoi ? Parce qu'on a subventionné les renouvelables. Et donc ce sont les taxes, la CSPE, qui viendra ensuite la TICFE, qui vont permettre de financer le surcoût de ces renouvelables. La deuxième raison, donc plus de 50%, c'est les taxes. 25%, un quart, c'est donc les réseaux. Il fallait investir dans les réseaux également pour pouvoir raccorder ces renouvelables. Et c'est seulement un quart, à peine, de l'augmentation qui s'explique par le prix de gros. Bon, après 2022, à partir de 2022, ce n'est pas du tout la situation. La situation, c'est évidemment le coût des combustibles. Alors on voit sur ce schéma, sur ce graphique, on voit la corrélation très bonne entre le prix de l'électricité et le prix du gaz. En bleu, le prix de l'électricité, en rouge, le prix du gaz. Alors, pour le consommateur, il est important de bien dissocier le prix de gros du prix de détail. Le prix de détail, c'est encore une fois le prix de gros plus, bien sûr, les péages d'accès au réseau et les taxes. Il faut tenir compte aussi du fait que les concurrents d'EDF qui ne produisent pas, pour des raisons historiques, mais sur lesquelles je n'ai pas le temps de rentrer, bénéficient de ce qu'on appelle le mécanisme de l'ARENH, l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, c'est-à-dire que EDF a l'obligation de leur vendre une partie de son électricité à prix coûtant. Le législateur avait prévu que, alors c'est aujourd'hui 42 euros encore le mégawattheure, mais le législateur avait prévu que le prix devait suivre l'inflation au minimum, plus les dépenses d'investissement supplémentaires qui seraient faites pour entretenir ce parc. Ça n'a pas été le cas, pour des raisons à la fois juridiques et politiques. Le prix de 42 euros qui est fixé depuis le 1er janvier 2012 n'a pas du tout varié. Et par conséquent, EDF se retrouve dans la situation de devoir vendre à un prix relativement bas une électricité pour permettre à ses concurrents de se sourcer en quelque sorte et pouvoir concurrencer l'entreprise sur le marché. Alors ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on regarde comment est fixé le tarif réglementé de vente payé par le consommateur final, ce tarif ne suit pas la structure du mix électrique français. Vous seriez tenté de dire, écoutez, le mix électrique français étant à à pas loin de 70% nucléaire, il est logique finalement que le coût du nucléaire représente 70%. La réponse est non, parce que la logique de la concurrence fait qu'on a introduit le principe de contestabilité du TRV, tarif réglementé de vente. C'est-à-dire que la structure du tarif réglementé de vente payé par le consommateur final, un tarif qui est fixé par l'État, pour faire simple, proposé par la commission de régulation et fixé par l'État, la structure de ce tarif est fixée et déterminée par la structure des offres de marché des concurrents d'EDF. Comme les concurrents d'EDF n'ont pas assez d'accès au nucléaire historique, ils sont obligés d'aller davantage sur le marché de gros, là où l'électricité est plus chère, et par ricochet, par effet miroir, la structure du TRV reproduit la structure des offres de marché des concurrents. Donc on a une situation paradoxale, dire que le nucléaire représente, on va dire grosso modo, 70% du mix électrique français, mais dans le TRV, le nucléaire ne représente que 45% du mix. Ça veut dire que le complément marché, lui, représente 55%. Donc les Français payent plus cher qu'un système où ils n'auraient pas ce principe de contestabilité. Alors là, je passe rapidement, hein, c'est simplement pour montrer que le TRV, le fameux tarif réglementé de vente, est fixé par empilement des divers coûts. Alors il y en a beaucoup, hein, des coûts. Alors vous avez notamment le TURP, le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, qui est un élément important. C'est un des éléments qui peut expliquer la hausse aussi du prix de l'électricité, parce qu'il va falloir investir pour entretenir et développer les réseaux. Là, vous avez une situation en Europe, pour le consommateur final, la France est encore bien placée, hein. Bon, la France avait traditionnellement un prix de l'électricité inférieur à ce qu'on observe dans beaucoup de pays, à commencer par l'Allemagne. Bon, c'est vrai pour les particuliers, c'est pas tout à fait vrai pour les industriels, hein, parce que les industriels allemands bénéficient de beaucoup d'aides pour la consommation d'électricité. Alors, pour le consommateur particulier, vous avez là l'augmentation du prix au cours de ces dernières années. Vous avez vu que il y a une augmentation récente qui fait que depuis février 2024, eh bien, le kilowattheure vous revient à peu près à 25 centimes. Un peu plus si vous tenez compte du coût de l'abonnement. On est aux alentours de 28 centimes. Donc, évidemment, ce prix de l'électricité, il s'explique par le fait que, eh bien, quand on calcule le TRV, il faut tenir compte du coût du nucléaire qui lui est bas, mais il faut tenir compte du coût du complément marché. Alors, certains disent, mais le complément marché, il a baissé. On nous a expliqué que le prix de l'électricité était en baisse. Alors, il était en baisse ces derniers mois, il remonte un tout petit peu ces derniers jours, mais il était en baisse ces derniers mois par rapport à ce qu'il était en 2022. Mais quand on calcule le coût du complément marché, il faut tenir compte de ce qu'était la moyenne des prix sur le marché de gros au cours des 24 derniers mois. Donc ça complique un peu le système, hein. Donc ça explique qu'aujourd'hui vous payez un prix d'électricité qui dépend en partie du prix qu'on a observé ces derniers mois ou l'année dernière. Vous allez me dire pourquoi ? Tout simplement parce que ceux qui aujourd'hui vendent de l'électricité, ils ont acheté cette électricité par anticipation sur les marchés à terme. Et par conséquent, il faut tenir compte du coût auquel ils ont accédé à cette électricité. Alors, certains ont considéré que ce qui s'est passé en 2022, cette augmentation vertigineuse des prix de l'électricité un peu partout, alors pas trop en France, parce que en France, le gouvernement, grâce au bouclier tarifaire, a permis au consommateur final, du moins domestique, eh bien, d'être fortement protégé. Ce n'était pas vrai pour les artisans, ce n'était pas vrai pour les industriels. Mais donc, l'aide de l'État a fait qu'on a probablement moins vu l'augmentation que dans d'autres pays. Mais cette augmentation a conduit beaucoup de pays à dire qu'on ne peut pas continuer avec un système qui peut nous entraîner vers des prix extrêmement élevés, surtout une forte volatilité des prix qui n'envoie pas de bons signaux. Alors, quels sont les projets de réforme ? Alors, ça va un peu dans trois sens. Il y a beaucoup de projets de réforme, hein. C'est un sujet, je dirais, très, très encombré, y compris sur le plan académique. Eh bien, la première solution, c'est de dire faut faire confiance au marché. Le marché a toujours raison. Hein, ça, c'est les optimistes. Ils disent, après tout, l'année 2022 a été une année exceptionnelle. La meilleure preuve, c'est que fin 2023 et en 2024, les prix ont chuté. On est revenu à un niveau normal. Même si, comme le rappelait Cécile, on est très au-dessus de ce qui se passe aux États-Unis. Enfin, les États-Unis, c'est un pays béni des dieux énergétiques. Ils ont beaucoup de gaz, ils ont beaucoup de pétrole, ils ont beaucoup de charbon bon marché, et ils ont moins de taxes, et donc le prix payé par le consommateur est beaucoup plus faible que ce qu'on observe en Europe. Mais indiscutablement, les prix ont chuté sur les marchés de gros ont chuté en 2024, et même fin 2023 par rapport à ce qu'ils étaient en 2022. La deuxième solution, deuxième projet de réforme, c'est revenir au monopole public intégré. Alors ceux qui disent, bah oui, ça prouve que le marché ne fonctionne pas, il faut revenir au monopole public intégré. C'est juridiquement difficile et politiquement impossible. Il faut être réaliste. Aujourd'hui, il faudrait détricoter un nombre invraisemblable de traités. Alors certains disent qu'il faudrait peut-être revenir non pas au monopole public intégré, mais à l'acheteur unique. L'acheteur unique, c'est la compétition, l'ouverture à la concurrence qu'avait proposé la France à ses débuts en disant on ouvre la concurrence à la production, mais pas au consommateur final. La production, c'est-à-dire qu'on peut mettre en compétition plusieurs producteurs et que le meilleur gagne, mais avec des contrats sur le long terme, pas avec des contrats de court terme. Alors, ce n'est pas cette solution qu'aujourd'hui semble avoir la priorité. Donc, la troisième solution, c'est celle qui a retenu l'Europe, c'est-à-dire mise en place de garde-fous. Alors, il y a deux types de garde-fous. Ce qu'on appelle les CFD, c'est-à-dire les contrats pour différence. CFD en anglais, hein, mais c'est contrats pour différence. Et puis, les PPA, là encore, c'est anglais, c'est des contrats à long terme. Bon, le CFD, c'est un principe extrêmement simple. C'est-à-dire que vous avez un prix plafond, vous avez un prix plancher. C'est un peu comme dans l'agriculture pour les prix planchers. Vous avez un prix en dessous duquel, eh bien, on ne descendra pas. Et si le prix du marché de gros descend en dessous de ce prix plancher, eh bien, l'État va subventionner. Par contre, si le prix du marché de gros dépasse le prix plafond, alors à ce moment-là, eh bien, l'État va prélever la rente et la redistribuer aux consommateurs. Alors, c'est un système, je dirais, qui a ses vertus. Alors, évidemment, le prix plancher peut être égal au prix plafond. On peut avoir des prix qui sont les mêmes. En général, on prévoit plutôt un corridor. C'est le système que la France a fait adopter, finalement, à ses partenaires, y compris pour le nucléaire historique, en disant, on pourra faire ça pour le nucléaire historique. Mais paradoxalement, ce n'est pas le système vers lequel on semble s'orienter en France, parce qu'il y a eu un accord depuis entre EDF et l'État. Alors, pour l'instant, c'est à l'État de construction. Donc, je vais parler de façon très précautionneuse. Mais cet accord consiste à dire, on maintient des contrats à long terme, c'est-à-dire qu'EDF pourra passer des contrats à long terme avec les industriels, on encourage ces contrats à long terme pour avoir une certaine visibilité. Mais par contre, ce n'est pas un vrai contrat pour différence. On mettra un système de prix plafond, mais pas un système de prix plancher. Donc, il n'y aura pas de prix plancher. Pourquoi pas de prix plancher? Parce qu'on ne veut pas donner l'impression que si on subventionne le nucléaire, la Commission de Bruxelles en profite en quelque sorte pour mettre son nez dans la façon dont le nucléaire serait subventionné. Donc, comme de toute façon, les prix vont plutôt avoir tendance à monter qu'à descendre, eh bien, on est prêt à un prix plafond, mais pas à un prix plancher. Alors, le système qui semble adopter, c'est celui-là. Double prélèvement, c'est-à-dire une taxe, c'est pas, le terme taxe n'est pas correct, il faut plutôt parler de prélèvement, 50% entre 78 euros le mégawattheure et 110 euros, et 90% entre au-delà de 110 euros. Donc, ce prélèvement sera ensuite redistribué aux consommateurs. Alors c'est ce système-là, alors je ne vais pas vous développer le schéma, mais enfin comme les documents seront disponibles, on voit que finalement ça reviendra à un prix plus élevé, évidemment, que le prix actuel, puisque le prix de l'électricité va suivre davantage le prix sur le marché de gros. Alors, qu'est-ce que ce système a comme conséquence? Eh bien, c'est qu'on fait des paris. Le premier pari, c'est un pari fait par EDF, que les prix de gros ne tomberont pas en dessous d'un certain seuil. Bon, ce qui peut se défendre, en tout cas en dessous du seuil de prix de revient du nucléaire historique. Ce ne sera pas vrai pour le nouveau nucléaire. Le pari fait par EDF que le coût du nucléaire ne dépassera pas 70 euros parce que le nouveau nucléaire devant être intégré, il faut prévoir quand même de financer ce nouveau nucléaire. Ah, pourquoi 70 euros? Parce qu'en fait, je vous ai dit, le coût du nucléaire historique de l'AREN, il est fixé à 42 euros par législateur. Il n'a jamais été revalorisé. On n'a pas tenu compte de l'inflation et des dépenses d'investissement depuis. En réalité, il y a un rapport qui est sorti qui montre, d'après la commission de régulation, que le coût du nucléaire historique est aux alentours de 60 euros le mégawattheure. EDF répondant que, d'après ses calculs, c'est plus proche de 75 euros le mégawattheure. Donc, en disant 70 euros, on est, je dirais, dans un domaine où ça peut être considéré comme acceptable. Donc, l'idée, c'est qu'il ne faudrait pas que ça dérive au-delà de 70 euros. Alors, ensuite, il y a un pari qui est fait aussi par EDF, que EDF va pouvoir signer des contrats à long terme avec les industriels. Alors, il y a deux types de contrats à long terme, soit des contrats en mégawattheure, en énergie, où vous achetez de l'électricité pendant quelques années, 3, 5 ans par exemple, à un prix fixé, qui peut être indexé ou pas d'ailleurs, soit vous participez au financement d'un réacteur, pourquoi pas? Ça a déjà été fait dans le passé, ça a été rappelé tout à l'heure par Jean-Paul Bout, hein. C'est-à-dire qu'il y a d'autres acteurs qui ont participé au financement de Fessenheim ou d'autres centrales nucléaires. Donc on peut concevoir qu'une grosse société, par exemple, Total, pour ne pas citer, puisse dire « moi je participe au financement d'un réacteur nucléaire, en contrepartie j'ai des droits de tirage ». Alors certains disent « oui, mais du coup, aujourd'hui, les industriels, ils ne se précipitent pas pour signer ces contrats ». Ben oui, quand les prix sont à la baisse, vous n'êtes pas incité, je dirais, à signer des contrats sur long terme. Donc certains disent « attention, hein, les prix de l'électricité vont remonter sur les marchés de gros, ne vous faites pas d'illusions, on ne va pas nécessairement rester à un niveau très très bas ». Et puis, évidemment, le pari, c'est que si l'État fait un prélèvement sur les prix de gros quand il dépasse un certain seuil, c'est que ce prélèvement donnera bien lieu à remboursement aux consommateurs. Quand l'État prélève, il redistribue pas toujours. Et deuxièmement, il faudra s'assurer que si le remboursement se fait par les fournisseurs vont, je dirais, répercuter sur leurs clients, évidemment, ce remboursement. On l'a vu avec l'AREN, les fournisseurs n'ont pas toujours fait profiter les consommateurs des avantages qu'ils avaient. Et par conséquent, tout le monde ne peut pas être sûr que eh bien, le système fonctionnera. Alors aujourd'hui, c'est un peu vers cela qu'on va. Il faut avoir en tête quand même que l'objectif, hein, c'est la décarbonation du mix énergétique à l'horizon 2050. Ça veut dire que, d'après les travaux de RTE, on va abandonner les énergies fossiles. Donc on aura soit du gaz bio, on aura soit évidemment de l'électricité. Donc la décarbonation va s'accompagner, ça a déjà été dit, par une électrification croissante des usages, notamment dans le domaine évidemment de la mobilité, mais pas seulement, tous les usages industriels. Donc on va avoir, même si on fait beaucoup d'économies d'énergie, on va avoir besoin d'investir beaucoup dans l'électricité. Et si on investit beaucoup dans l'électricité, ça veut dire qu'on va investir beaucoup aussi dans les réseaux. Donc une des causes de l'augmentation des prix est probablement l'augmentation du coût des réseaux. Et du coup, pour la réforme du marché de gros, est-ce que cette réforme, je dirais, qu'on fait un peu dans l'urgence, est-ce qu'elle est pérenne? À mon avis, elle n'est pas pérenne. Pour une raison simple, c'est qu'on a dit, aujourd'hui, le prix de l'électricité sur le marché de gros, il est fixé sur la base du coût de fonctionnement de la dernière centrale, donc le coût marginal. Mais le jour où les centrales fossiles auront disparu, le coût marginal du parc électrique, il sera faible. Pourquoi? Parce que les autres centrales qui vont rester, ce sont des centrales renouvelables ou des centrales nucléaires. Et dans ces centrales, ce qui compte, c'est les coûts fixes, ce n'est pas les coûts variables et pas les coûts du combustible. Donc vous ne pouvez pas dire « je vais garder une logique de fixation des prix sur la base du coût marginal », puisque le coût marginal, il sera soit zéro, soit relativement faible. Donc il faut probablement revenir à une logique de fixation d'un prix, non pas sur le coût marginal, mais sur le coût moyen, qui est au fond le bon système. Il faut que le prix payé permette de couvrir à la fois les coûts fixes et les coûts variables. Et donc c'est un petit peu, et je terminerai par là, c'est un petit peu le schéma qui avait été proposé par certains collègues grecs notamment. C'est l'idée, on pourrait faire aujourd'hui un marché dual, c'est-à-dire à gauche, vous mettez les centrales à forte proportion de coûts fixes, le nucléaire et les renouvelables, et une partie du tarif est fixée sur la base du coût moyen de ces centrales, et à droite, vous mettez les centrales pour lesquelles les coûts variables sont très élevés. À l'époque, les coûts variables étaient très élevés, hein, c'est donc surtout les centrales à gaz et les centrales au charbon. Et donc, à ce moment-là, le prix sur le deuxième compartiment est un prix relativement élevé. Puis vous faites une moyenne des deux. Et au fur et à mesure que les centrales fossiles vont sortir, je dirais, du mix énergétique et notamment du mix électrique, eh bien, ça veut dire que la frontière va se déplacer de la gauche vers la droite et que demain, la tarification se fera, ce qui est logique, sur la base du coût moyen. Donc, en fait, cette réforme qu'on est en train de mettre en place dans des conditions un petit peu, je dirais, précipitées parce qu'il faut faire face ou tenir compte de ce qui s'est passé en 2022, ben, cette réforme, elle n'est sûrement pas pérenne et d'autres réformes vont probablement suivre. Merci.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.